tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Les amateurs de biologie et d'histoire naturelle de Marseille sont restés tristes pendant de longues périodes, 8 mois, on va dire 8 mois, sans muséum d'histoire naturelle à Marseille. Et puis, le 29 juin, voilà qu'il a réouvert. Il est installé au Palais Longchamp, là où il était, en tout cas depuis un certain temps, car ce musée d'histoire naturelle de Marseille a été créé en 1819 ici à Marseille, et puis depuis 1869, il occupe l'aile droite du Palais Longchamp. Nous sommes donc aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle de Marseille, au Palais Longchamp, après donc sa réouverture. Et puis avec nous, pour nous accompagner dans cette visite du Muséum d'histoire naturelle, nous avons la joie d'accueillir Anne Médard-Blondel, directrice du Muséum. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être un petit peu de quelques chiffres sur ce musée. Il a une collection de paléontologie avec, je crois, 81 000 échantillons, une collection botanique de 200 000 spécimens, une collection minérale de 8 000 échantillons et une collection zoologie de 83 660 spécimens et une collection sciences humaines de 4 650 échantillons. C'est un énorme musée.
C'est une énorme collection, oui. Ça, c'est sûr.
Il a aussi plusieurs salles. Donc là, nous sommes un peu dans la salle centrale. Quand même, on va donner un peu les différentes salles que dispose ce musée. Il a la salle safari.
Donc là, nous sommes dans la salle safari.
Il y a la salle Terre des Hommes.
C'est ça.
Il y a la salle de province.
Oui.
Et en fait, si nous sommes ici, c'est parce que aussi s'inaugure aujourd'hui, enfin c'est prochainement, une nouvelle salle.
Tout à fait. On ouvre aujourd'hui Terre du Vivant.
Alors, Terre du Vivant, c'est une salle sur l'évolution de la biodiversité.
Terre du Vivant est une salle sur l'adaptation et l'évolution du vivant. Donc elle fait complément avec la salle safari qui montre la biodiversité dans le monde avec une répartition géographique. Et là, on va s'attarder un peu plus sur la vie et l'évolution des espèces.
Alors cette salle, c'est une salle neuve, mais ce n'est pas non plus une salle construite en supplément du Palais Longchamp.
Pas du tout.
C'est une salle qui a une histoire. Dans les années 70, par exemple, c'était une...
Dans les années 70, on avait une exposition sur la paléontologie en Provence. Et puis, on a eu dans les années 90 la collection d'ostéologie. Donc c'était la salle d'ostéologie jusque dans les années 2008-2009.
Alors cette salle Terre du Vivant devient donc une salle permanente du
musée. C'est une salle permanente, tout à fait.
Alors quelques missions aussi, quelques notions sur les missions du musée. Je crois qu'il a au moins trois missions, une mission scientifique, une mission culturelle et une mission pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces trois missions?
Donc ce sont les missions classiques, tout à fait classiques d'un musée. Et qui sont peut-être renforcées dans un musée d'histoire naturelle sur l'aspect pédagogie, évidemment. Je vais commencer par elle. Donc on a un service des publics qui est chargé de proposer des animations, des ateliers, soit pour les scolaires, soit pour le grand public. Même si grand public est un grand mot, mais tout au long de l'année. Une mission culturelle, ça se développe dans nos expos permanentes et nos expos temporaires. Nos conférences, nos cycles de conférences et la mission scientifique et toute la part de notre travail consacrée aux collections, à l'inventaire et à la numérisation du fonds patrimonial de sciences naturelles. Donc tous les spécimens que vous avez cités, c'est ce presque million de spécimens qu'il faut inventorier.
Alors si vous voulez, on va un petit peu marcher quand même là, dans cette salle. C'est la salle safari ici.
C'est la salle principale. Donc ici, c'est la salle safari. Donc elle est connue pour beaucoup de Marseillais puisqu'on y trouve un éléphant et une girafe qui sont là depuis plus de 100 ans. Donc elle abrite des animaux qui ont vécu dans le jardin zoologique Longchamp. Donc nous sommes au Palais Longchamp, au cœur du parc Longchamp. Et avant même l'arrivée du musée, il y avait un jardin zoologique dans le parc Longchamp.
Vous me confiez en préparant cette émission que finalement dans un musée, particulièrement comme celui-ci, se joue aussi toute une histoire de la représentation de la nature. Parce que les vitrines que vous avez sont des vitrines un peu particulières, il faudrait qu'on puisse les décrire.
Il faudrait qu'on puisse les décrire. En fait, les vitrines ont été dessinées par Espérant Dieu, qui est aussi l'architecte de Notre-Dame de la Garde et celui de la Major. Et quand on lui a confié le Palais Longchamp, on lui a confié la réalisation de deux musées. Ce n'est pas autre chose que des musées. Du coup, de ce bâtiment-là, il a conçu des vitrines pour abriter les collections d'histoire naturelle qui, à l'époque, étaient toutes exposées. C'est-à-dire que le public avait accès à la science du 19e siècle où on référençait la diversité du vivant dans le monde entier. Donc Marseille étant un port, il y avait énormément de choses et on montrait tout. Donc les vitrines sont en chêne, elles bordent tous les côtés des salles. Et bon, elles ont été un peu remaniées dans les années 70 où on a enlevé les étagères, mais avant il y avait des étagères et des alignements d'animaux.
Ce qui veut dire que d'abord, la première préoccupation à l'époque, c'était d'abord de montrer, sans ranger finalement, sans classer.
On classait. On avait les mammifères avec les mammifères, avec les coquillages, oui, mais on montrait tout.
Alors que maintenant, on ne montre pas tout.
Non, on ne montre pas tout.
On doit avoir
350 spécimens exposés dans cette salle sur une collection de vertébrés qui doit être, à 10 000 à peu près.
Donc ça veut dire que ce choix s'articule à l'idée d'un savoir ou l'idée d'un choix pour prendre une problématique ou un axe, par exemple.
Soit on choisit un axe. Donc c'est pour ça qu'on a, par exemple, rassemblé les ursidés. Donc on va tous les ours de tous les continents, ou les félins. Mais on choisit aussi les animaux qui ont une histoire liée à Marseille et au jardin zoologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas enfermé complètement les anciens locataires du jardin. Même si parfois, pour certains visiteurs, ils les trouvent un peu anciens. Et c'est sûr qu'ils ont, pour certains, 130 ans, donc ils sont un peu défaits.
Alors, de cette première conception du musée où on montre tout, ensuite, quelle a été un peu la grande étape de changement dans les musées ?
La grande étape de changement dans les musées, on va dire les années 70, pour faire court, c'est qu'on a montré plus que des collections, un savoir. Donc, on a réorganisé les collections de façon à pouvoir raconter quelque chose, et les musées hommes d'histoire naturelle à l'époque étaient rattachés également à l'éducation nationale. Donc la mission éducative était beaucoup plus forte. Et la muséographie a vu le jour également, ce qu'on appelle la muséographie. C'est vrai que Georges-Henri Rivière en France a été un des précurseurs avec les musées des ATP, mais les musées hommes ont aussi subi cette influence.
Si vous voulez bien, on peut aller un peu sur cette nouvelle salle qui est la salle Terre du vivant, donc qui va tout prochainement ouvrir ses portes. Elle est encore, je crois, en fabrication.
Elle a encore quelques points en fabrication, effectivement. Mais globalement, elle est presque achevée.
Donc là, ici, on est sur les enjeux donc de l'évolution, de la biodiversité.
Oui.
Et je crois que vous avez pris deux axes. L'axe, la question de la respiration, je crois, et la chaîne alimentaire.
On a pris six axes. Et donc, ce sont deux de ces six axes, effectivement. La respiration et la chaîne alimentaire.
Alors, parmi les pièces qu'on a ici, on a quand même des pièces assez impressionnantes. Bon, celle-ci, je ne connais pas le nom de cette bestiole. C'est un mosasaur.
C'est un reptile marin du Crétacé.
Donc, on trouve le mosasaur qui peut cohabiter avec l'homme, par exemple.
Elle cohabite avec l'homme, effectivement, mais l'homme est un élément parmi d'autres de la nature. C'est pour ça que vous avez aussi une tortulute, une girafe, un squelette d'éléphant, un paon en déploiement royal.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons monter au dernier étage du musée.
Au deuxième.
C'est au deuxième ? Ce n'est pas encore le dernier ?
Ce n'est pas encore le dernier.
Quel dommage. J'aime beaucoup monter au dernier étage. Alors, nous irons donc au deuxième étage, à la salle de conférence, et nous allons rejoindre d'autres invités. Nous allons nous installer un petit plateau aménagé par Jean-Baptiste, notre technicien, et nous allons rejoindre Stéphane Jouve, qui est paléontologue ici, au muséum. Philippe Sio, qui est zoologiste, et puis nous accueillerons également Guillaume Lecointre, qui est systématicien, et qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et qui dirige le département systématique et évolution. Et avec eux, donc, si vous le voulez bien, nous allons nous saisir de l'occasion de cette salle Terre du Vivant pour revenir sur cette question de la théorie de l'évolution et donc l'évolution des espèces.
Volontiers.
À tout de suite.
À tout de suite.
Classé chez moi Homo sapiens, c'est une vraie passion, une seconde nature. J'ai essayé tous les critères. Taille, durée de vie, ordre alphabétique, répartition géographique, mode de reproduction, habitudes alimentaires. J'ai inventé 1000 systèmes de classification, du plus primaire au plus subtil, du plus rationnel au plus arbitraire, comme dans cette ancienne encyclopédie chinoise évoquée par l'écrivain argentin Jorge Luis Borges. Les animaux se divisent en A, appartenant à l'empereur. B. Embaumé. C. Apprivoisé. D. Cochon de lait. E. Sirène. F. Fabuleux. G. Chien en liberté. H. Inclus dans la présente classification. I. Qui s'agite comme des fous. J. Innombrable. K. Dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau. L. Etc. M. Qui viennent de casser la cruche.
Nous voilà au deuxième étage du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille et nous venons d'entendre un extrait du film Espèces, un film qu'on peut voir d'ailleurs sur le site Universcience TV. Nous sommes installés donc au deuxième étage du Muséum d'Histoire Naturelle et nous avons rejoint nos invités Stéphane Jouve. Bonjour Stéphane Jouve.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue, c'est cela ?
Tout à fait.
Quelques mots un peu. Qu'est-ce que c'est que la paléontologie ?
Alors la paléontologie, c'est l'étude des formes fossiles.
Voilà, c'est très bref. Parfait. Philippe Sio. Bonjour Philippe Sio.
Bonjour.
Vous êtes zoologiste, c'est
oui.
cela ?
Oui, tout à fait.
Zoologiste, ça consiste hein ?
Bah, ça consiste, disons, à étudier les formes vivantes animales. Mais moi, plus particulièrement, je suis écophysiologiste, donc je les étudie dans leur milieu.
Tous les deux, vous travaillez au Muséum d'Histoire Naturelle Marseille, c'est cela ?
Tout à fait.
Et puis, nous accueillons également Guillaume Lecointre. Bonjour, Guillaume Lecointre.
Bonjour, Grenouille.
Vous êtes systématicien, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous dirigez le département systématique et évolution. Alors, systématicien, qu'est-ce que cela veut dire ?
Le systématicien, c'est celui qui s'intéresse aux classifications et à leur pertinence, justement. On vient de voir un bel extrait d'une variété de pertinence de classification. Les systématiciens sont des classificateurs, oui.
Alors justement, commençons par cela, puisque là, nous sommes réunis à l'occasion de cette salle Terre du Vivant. Et commençons par cette question de la classification. Au fond, pourquoi décrire ainsi le vivant quand on sait quand même qu'il existe, je crois, de 5 à peut-être potentiellement 100 millions d'espèces ? Donc le travail de description est quand même un travail extrêmement laborieux. Au fond, à quoi ça sert de décrire, de tout décrire ? À quoi ça sert ?
Ça sert à pouvoir parler de ce qui existe. Parce qu'en fait, le langage, on en a besoin déjà pour des raisons pratiques. Hein. Il faut qu'on arrive à nommer aux origines de l'homme et même peut-être avant, il faut qu'on arrive à nommer ce qui est consommable, nommer ce qui nous donne des maladies. Et donc l'homme exploitant la nature, il apprend à la désigner. Et il faut donc arriver à parler. Alors classer, ça veut dire faire des boîtes dans nos têtes. Et sans boîte dans nos têtes, nous ne pourrions pas parler. Vous avez besoin d'appeler ça une table. Il y a une boîte dans votre tête qui dit bah, une table, c'est une surface plane avec 4 pieds. Là-dedans, il y a plein de sortes de tables, évidemment. Il y a les grands pieds, les petits pieds, des tables rouges, des tables jaunes. Et vous avez besoin de faire ce qu'on appelle des catégories pour arriver à parler du monde. Alors pour parler du monde des êtres vivants, bah, nous avons aussi besoin de faire des catégories.
Il s'agit quoi, de mettre de l'ordre ?
Oui, c'est déjà de mettre de l'ordre, oui, bien sûr, puisque les catégories, pour arriver à parler de manière cohérente, il faut qu'elles soient emboîtées les unes dans les autres. Il ne s'agit pas seulement de séparer, il suffit surtout de regrouper, et de regrouper en emboîtant. Et les classificateurs de la zoologie antique étaient déjà dans cette logique, il y a plus de 2-3 000 ans, et puis... plus récemment, en Europe, on est aussi sur les mêmes nécessités classificatoires au XVIIIe siècle. Les choses vont basculer un petit peu au XIXe. Mais de tout temps, en fait, on a eu besoin de faire des classifications, ne serait-ce que pour pouvoir parler de ce qui existe.
Je disais que le titre du film s'appelait « Espèce d'espèce ». Alors, c'est peut-être une question pour Philippe Sio. Finalement, l'espèce, qu'est-ce que ça définit ?
Alors, ça définit un groupe qui... suivant la définition...
Parlez bien proche du micro.
Oui, pardon. Ça définit les groupes qui, normalement, peuvent se reproduire, des individus qui peuvent se reproduire entre eux. Le problème à l'heure actuelle, c'est que cette définition-là est largement remise en cause, puisqu'on s'aperçoit de plus en plus que des espèces décrites et qui étaient admises, en fait, sont capables de se reproduire avec des individus d'une autre espèce, et ça remet en cause... disons, cette notion. Et pour les zoologistes, à l'heure actuelle, c'est un peu le problème majeur actuel, c'est-à-dire de redéfinir ce que peut être l'espèce. Puisque nous avons, par rapport aux paléontologues, la chance de pouvoir justement observer les possibilités de reproduction des individus. Voilà, par exemple, on sait que les canidés, par exemple, peuvent se reproduire entre eux et que certains de ces, donc, des descendants peuvent être féconds également. Donc là, c'est en contradiction avec, disons, la théorie l'hypothèse de l'espèce elle-même.
C'est-à-dire que l'interfécondité ne suffit plus pour définir une espèce.
Non, ne suffit plus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre maintenant dans la définition d'espèce, mais qui va intégrer la notion de milieu et de possibilité en fait, de rencontre entre les individus de différentes espèces.
Dans la théorie classique actuelle de l'évolution, on affirme que c'est par une série de mutations que les espèces se seraient différenciées pour aboutir à l'homme. Est-ce que c'est aussi votre avis ?
Personnellement, je ne le crois pas, mais je ne vous donne là qu'un avis personnel. La plupart des biologistes pensent en effet que l'évolution s'est faite à coup de mutations, c'est-à-dire de variations germinales quelconques, variations qu'aurait ensuite triées la sélection naturelle. C'est ce qu'on appelle la théorie néo-darwinienne de l'évolution. La discussion de cette théorie nous entraînerait trop loin. Remarquez que je l'écarte pour ma part et j'écarte également la théorie lamarckienne, c'est-à-dire adaptation du corps aux circonstances extérieures et transmission des caractères à la descendance. J'écarte donc les deux théories classiques de l'évolution. Que mettez-vous à la place, me direz-vous ? Je mets simplement un immense point d'interrogation.
Un immense point d'interrogation de Edmond Rostand. Et ce que je vous propose, c'est que nous fassions un peu l'épreuve de son scepticisme, en tout cas, et que nous essayons de faire une histoire un peu des différentes théories concernant à la fois les enjeux de classification et ensuite, évidemment, nous arriverons à la théorie darwinienne. Mais d'abord, faire face donc à son scepticisme, c'était, je crois, important de revenir sur une histoire. Comment cela a commencé d'une certaine manière, au fond, par peut-être la question d'une échelle des êtres qui apparaît. J'aimerais qu'on commence par là, au 18e, et le travail que fait Charles Bonnet sur l'échelle des êtres, et essayer de comprendre dans cette échelle des êtres qu'est-ce qui se joue comme type de représentation, non, du vivant avec cette échelle des êtres au 18e. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Guillaume, sur cette échelle des êtres. Qu'est-ce qu'elle donne comme représentation du vivant ?
Elle part d'un monde qui est perçu comme régulier. Nous, êtres humains, nous sommes surentraînés à repérer ce qui est régulier pour des raisons pratiques et pour des raisons métaphysiques. Et nous négligeons les irrégularités, elles ne nous rassurent pas. Donc, depuis ses origines, l'homme affine son vocabulaire sur les manifestations régulières de la nature et néglige les irrégularités, qui sont vues comme miraculeuses et néfastes la plupart du temps. L'échelle des êtres s'exprime dans une vision où rien ne bouge. Le monde a été connu de mon grand-père comme je le vois aujourd'hui. Le monde n'a jamais bougé. Et ce monde est construit par empilement de propriétés. Les plantes ont déjà certaines propriétés des minéraux, les animaux ont déjà certaines propriétés des plantes, et l'homme, évidemment, cumule toutes les propriétés. Et pour des raisons de valeur, il est en haut de l'échelle, bien sûr. Je reviens donc sur le témoignage de d'Edmond Rostand. Edmond Rostand s'exprime à une époque où, dans la biologie, même devenue évolutionniste au XIXe siècle, nous continuions à dire que ce qui est donné comme à observer, c'est ce qui est constant. Et au milieu du XXe siècle, l'idée, c'est que les choses constantes nous sont données à observer, et le rôle de la théorie de l'évolution, c'est d'expliquer le changement. D'où l'inconfort de certains zoologistes de l'époque à se dire comment l'évolution doit expliquer le changement entre des choses qui sont régulières. On parlait de l'espèce tout à l'heure. L'espèce était conçue comme une régularité majeure de la nature. Je ne veux pas citer tous les zoologistes, mais au XXe siècle, il y a pas mal de zoologistes qui étaient pour un réalisme de l'espèce, c'est-à-dire l'espèce est quelque chose qui a ses propres modalités de constance, et il va falloir expliquer le changement, ce n'est pas facile. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que Dans la deuxième moitié du XXe siècle, tout ça a basculé. C'est-à-dire qu'en fait, la règle n'est pas la régularité, et ce qui est expliqué, c'est le changement, c'est l'inverse. Si vous concevez que la règle, c'est le changement, et que ce que la théorie de l'évolution doit expliquer, c'est les régularités, ça change complètement le sens des explications. Et effectivement, quel est l'agent qui va expliquer les régularités? C'est la sélection naturelle.
Alors n'allons pas trop vite,
oui,
voilà déjà au 20e, restons encore un petit peu au 18e. Au fond, c'est la question sur quoi évidemment on porte l'attention. Je crois que j'avais pu vous entendre dire, est-ce qu'on porte l'attention sur ce qui est commun, que vous appelez l'ordre, ou sur ce qui varie, une forme de désordre. Mmh. Et là, effectivement, on voit comment l'attention se porte sur l'ordre, c'est-à-dire sur ce qui est commun et non pas sur ce qui varie.
Je vais rattraper la chronologie que vous souhaitiez voir abordée, c'est qu'effectivement, le grand Linné, le premier des classificateurs, porte son œil, avant même qu'il y ait une échelle des êtres, il donne sa priorité à l'ordre. Et il néglige le désordre. La variation à l'intérieur de l'espèce est conçue comme une corruption matérielle d'un plan divin de création par l'inné. La variation est une corruption pour lui. Et donc ce qui est mis en valeur dans sa classification, dont nous héritons encore de certaines formes dans nos enseignements scolaires, encore jusqu'à aujourd'hui, hein, ce qui est conçu comme valant classification, c'est justement ses régularités.
C'est-à-dire que ce fameux système Naturae de Carl von Linné ne modifie pas les cadres de représentation déjà présents chez Charles Bonnet.
Il est contemporain de Charles Bonnet, il est même un peu antérieur. Disons que Linné, que là, sans nécessairement mettre une échelle des êtres, c'est Charles Bonnet qui va en 1745, on va dire, inscrire l'échelle des êtres dans la culture, plus que Leibniz ne l'avait fait et plus qu'Aristote ne l'avait fait lui-même. Mais enfin bon, cette échelle continue. Et évidemment, d'autres métaphores vont s'imposer à la charnière 18e, 19e.
Arrive aussi Lamarck. Et Lamarck, là où c'est intéressant, ou là où il y a aussi une révolution, c'est qu'apparaît aussi le fameux arbre. Et je crois que c'est Lamarck qui pose l'arbre et qui donc définit ce tronc et cette place de l'homme. Bon, on a déjà la place de l'homme en haut, mais disons l'arbre, il y a aussi l'idée d'une généalogie qui arrive chez Lamarck.
Oui, il y a chez Lamarck l'idée de généalogie, c'est sûr, mais par contre, ce n'est pas lui qui impose l'arbre. L'arbre est un thème théologique très ancien qu'on retrouve dans la plupart dans au moins deux des trois grands monothéismes. La métaphore de l'arbre est déjà installée dans la culture chrétienne, notamment en Occident. Simplement, cette métaphore est reprise.
Dans les sciences naturelles?
Non, en dehors des sciences, en tant que comment dire, motif théologique. Elle s'est reprise métaphoriquement par Pallas, s'est reprise par Augier en 1801, avant que Lamarck ne le publie lui-même, l'arbre auquel vous faites allusion. Donc l'arbre commence à frétiller dans la tête des classificateurs. Lamarck fait une espèce d'arbre à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien une idée de filiation, mais c'est une idée de filiation par dégénération, un peu comme le faisait Buffon par écrit. L'arbre qui va se déployer positivement par accumulation de traits va être essentiellement celui de Charles Darwin, en fait.
Mais au fond, Philippe et Stéphane, au fond, si on en arrive à cette situation où l'homme est au sommet de l'échelle, ou l'homme au sommet de l'arbre, c'est aussi parce que l'homme est la seule espèce en capacité de décrire toutes les autres espèces. Et donc, il y a quelque chose d'un anthropocentrisme, quoi. C'est-à-dire que l'homme est forcément le plus évolué, est forcément l'espèce la plus spécifique de toutes les espèces, donc la plus évoluée, la meilleure. C'est un peu aussi cette de cela qu'hérite d'une certaine manière la biologie et l'histoire naturelle.
Tout à fait. Depuis le début de l'étude de la science, en fait, l'homme s'est mis au centre de la nature et est forcément, comme il y a un fond... un fond très fort religieux, forcément l'homme est au-dessus de tout le reste. Donc forcément, c'est l'homme est la finalité dans ces sciences à cette période-là. Il faut attendre vraiment plus tard pour qu'on se détache un petit peu, notamment de la religion, pour arriver à ce que l'homme reprenne, disons, entre guillemets, sa place dans la nature.
Philippe ?
Oui, oui, c'est tout à fait ça. Bon, on retrouve,
bien proche du micro. Hein,
pardon. On retrouve ça dans les écrits de Théard de Chardin, où en fait, il place vraiment l'homme au sommet d'une complexité. Et en fait, le vivant n'a pour but que d'arriver à quelque chose le plus proche possible de Dieu, qui est l'homme. Et voilà, donc il faut attendre pratiquement l'après-guerre pour... Enfin bon, il y avait déjà des mouvements bien établis, mais il faut vraiment, pour que ça touche le grand public et qu'on perçoive les choses autrement, il a fallu attendre très tard, effectivement.
1859, l'origine des espèces de Darwin. Je note une expression, communauté de descendance. Je crois que c'est une expression qu'on trouve donc dans cet ouvrage. Là, c'est quand même une vraie révolution de parler de communauté de descendance.
Oui, c'est une révolution et en même temps, c'est un terrible accident de traduction. Parce qu'il faut savoir que chez les anglo-saxons, quand on dit descent, common descent, c'est effectivement, ça s'emploie dans tous les sens, ça s'emploie dans le sens de la descendance et de l'ascendance. Vous n'êtes pas responsable de cette erreur de traduction, c'est Edmond Barbier, un contemporain, qui traduit Darwin au 19e, et qui le traduit assez maladroitement, qu'il traduit comme avec nos traducteurs automatiques aujourd'hui sur le web, voyez ce que je veux dire. Barbier ne fait aucune délicatesse dans sa traduction du texte entre les situations dans le texte où il faut dire descendance et les situations dans le texte où il faut dire ascendance. Quand Darwin dit « les traits communs partagés par des espèces qui pourtant ne se croisent plus entre elles aujourd'hui sont le signe d'une ascendance commune », le descent dans le texte anglais, il faut le traduire par ascendant, sinon vous ne comprenez rien. Vous n'héritez pas de vos descendants, vous héritez de vos ascendants. Et donc l'ascendance commune, c'est la grande idée de Darwin. Malheureusement, quand on dit descendance commune en français, on ne comprend rien parce qu'on se dit ben, c'est descendance commune, alors ça veut dire que le chat et le chien vont faire des petits ensemble. Ça va expliquer l'évolution. Il y a un grand malentendu. Ces traductions maladroites ont évidemment n'ont pas favorisé la compréhension dans la sphère francophone du travail de Charles Darwin. Bon, c'est pas la seule erreur de traduction, je vais pas vous faire un cours. Mais oui, vous avez raison, c'est effectivement la grande idée. Il y a deux grandes idées. Il y a celle-ci, l'ascendance commune comme explication des caractères partagés par des espèces qui aujourd'hui ne font pas de petits ensemble. Ça veut dire que leurs ancêtres en ont fait, mais il y a longtemps. Et c'est très partagé, ils les ont hérités de ces ancêtres précisément. L'autre grande idée, je l'ai déjà évoquée brièvement, c'est que c'est chez Darwin le premier qu'on trouve cette acceptation tranquille d'un désordre fondamental. Le rôle de la théorie de l'évolution, c'est d'expliquer comment on obtient des choses régulières dans la physiologie, des choses régulières dans l'organisation des organes, des choses régulières dans la manifestation des phénomènes, alors qu'on est sur de la variation qui ne se produit pas au besoin de son porteur. On est sur des mutations qui peuvent éventuellement être délétères pour leur porteur. Il y a un désordre fondamental à partir duquel on va expliquer l'ordre. Au XXe siècle, il y aura une trahison de cette idée, c'est-à-dire qu'on ne va pas se débarrasser de l'échelle des êtres et de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure si facilement. Beaucoup de zoologistes vont continuer à penser comme si l'ordre était premier et le rôle de la théorie de l'évolution va être conçu comme celui expliquant le changement. Alors que pour Darwin, déjà, le rôle de la théorie de l'évolution, c'est d'expliquer les régularités sur un fond de désordre. Et quel est l'agent, je vous l'ai dit, quel est l'agent? La sélection naturelle. C'est à partir de ce désordre fondamental qu'une sélection naturelle trie, on va dire, celle des combinaisons qui, fortuitement, sont favorables à leur porteur en termes de capacité de reproduction. Et évidemment, c'est le milieu, ce sont les espèces voisines qui opèrent, passivement ce tri.
Alors, maintenant, on ne représente plus sous forme d'arbres, mais j'ai vu dans ce film, espèce d'espèce, qu'on représente sous forme de buissons sphériques. Toute cette évolution des espèces. En fait, on est beaucoup plus proche du rhizome deleuzien, hein, c'est-à-dire il n'y a plus de tronc central, mais une sorte de racine donc qui part dans tous les sens, avec au moins trois branches, disons quand même malgré tout principales et fortes. Ça change complètement tout hein, comme visualisation.
Oui, parce que vous avez bien fait de parler de tronc central. Effectivement, le tronc central, c'est une image forte dans la deuxième moitié du 19e et qui est héritée non pas de Charles Darwin. Dans la seule figure que Darwin dessine, il n'y a pas de tronc. Ce sont des divergences successives. C'est Hans Haeckel, l'Allemand, qui va faire le tronc central, ce fameux tronc central, qui est une espèce de mélange, en fait, si vous voulez, entre l'échelle dont on parlait tout à l'heure, où on a quand même un empilement de propriétés. Et puis, la vision arborée, on prend un chêne, on lui fait un tronc central, il y a des branches latérales auxquelles on ne s'intéresse pas, et je vous le donne en mille, évidemment, à quoi s'intéresse-t-on? eh bien, on s'intéresse aux étapes qui jalonnent le tronc jusqu'à l'apex du chêne, et c'est l'homme qui est au bout. Donc là, dans ce tronc, on a un mélange d'échelle des êtres et d'arbres.
Alors que dans la sphère, finalement, je suis au même niveau que la betterave, que la courgette.
Au XXe siècle, on est au même niveau que la grenouille, effectivement, parce que l'idée, c'est que cet arbre n'exprime plus de chemin privilégié dans la description des étapes historiques par lesquelles le vivant est passé. Ces étapes sont multiples, l'arbre est buissonnant, vous l'avez dit. Ça veut dire qu'en fait, on a plein de directions, et le cheminement d'un lignage généalogique qui mène aujourd'hui à un lézard ou à une grenouille, eh bien, n'est que partiellement commun avec le nôtre. Et puis dans les parties distales, les parties qui sont proches de la surface, ce cheminement n'est plus le même, ce sont des cheminements distincts. Et donc, on libère en quelque sorte les espèces, excusez-moi de la métaphore, mais on libère les espèces de la prison du récit humain dans laquelle on les enfermait. C'est-à-dire qu'on accepte aujourd'hui, avec cette histoire de buisson, de raconter toutes les histoires de toutes les espèces à la fois. Sans réduire l'histoire des autres à notre propre histoire, en disant partie profonde ce qui est partagé et en disant partie périphérique ce qui est particulier. Ce qu'il y a de particulier n'empêche pas ce qu'il y a d'être partagé, ce sont des propriétés cumulées. Ce qui fait de nous des hommes n'est pas antagonique avec ce qui fait de nous un animal. Ce qui fait de nous des hommes est en quelque sorte superposé à ce qui fait de nous un vertébré ou ce qui fait de nous un animal.
Oui, je peux dire, je suis une carotte, je suis un écureuil, je suis un homme et je suis un.
Non, il faut que vous, là, il faut baleine, que, il faut que vous utilisiez les noms des groupes communs, oui, qui renferment la carotte et l'homme. Ça sera eucaryote, par exemple.
Par exemple.
Par exemple, eucaryote, ça veut dire les cellules munies d'un noyau. Voilà.
Ou bactéries.
Alors, si je vais jusqu'à la bactérie, le groupe le commun à moi et à la bactérie, ça sera le vivant.
Ah, c'est le dénominateur minimum commun, quoi.
Oui, quasiment. Oui. Enfin, on va le dire comme ça, oui.
Parce qu'au fond, la question, et donc la question fondamentale, c'est qui partage qui avec quoi. Et par exemple, la manière dont, on va classifier... vous disiez non.
Qui partage quoi avec qui.
Qui partage quoi avec qui, exactement. Et par exemple, va se jouer sur ceux qui partagent le pouce. Ou ceux qui partagent, je sais pas, une omoplate, ou ceux qui partagent tel type d'organe, ou telle caractéristique osseuse.
Justement, il va y avoir superposition de cette figure d'arbre et de la classification, puisque si les caractères partagés par des espèces qui ne se croisent pas entre elles, c'est le fruit de l'ascendance commune, comme on le disait avec Darwin tout à l'heure, faire des groupes, fonder nos groupes classificatoires sur ce que les êtres ont, et pas sur ce qu'ils font, et pas sur pas là où ils habitent, et pas si ça se mange ou pas, et pas si c'est gentil ou si c'est méchant. Si on classe sur ce qu'ils ont et pas autre chose, c'est la meilleure façon, nous dit Darwin, d'attraper les ancêtres communs, enfin de les refléter en quelque sorte. Évidemment que ces ancêtres ont disparu, définitivement, mais une manière de les reconstituer indirectement, c'est de fonder nos classifications sur des présences d'attributs, des présences de caractères, et pas des critères, on va dire, écologiques, dans le sens où on s'attacherait à décrire ce qu'ils font et pas ce qu'ils ont. Voilà.
Vous avez cette phrase, penser l'être vivant comme une série d'innovations acquises au cours de l'histoire de la vie. Au fond, pour vous, ce serait qu'une succession d'innovations ?
S'agissant de la classification, oui. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de... Il y a 1000 récits à faire sur le vivant. Là, je parle juste du récit qui intéresse la classification. Mm-hmm. Effectivement, on utilise pour faire des boîtes de plus en plus restreintes, et emboîter les unes dans les autres, des événements de plus en plus récents, des événements d'acquisition de caractère de plus en plus récents. Ça nous renvoie à la classification, c'est-à-dire la question du début. La question du début, pour parler, on a besoin de faire des boîtes, mais encore faut-il qu'on s'entende sur la façon de les faire. Tout à l'heure a été évoquée la difficulté de trouver une convention sur l'espèce. Avec Charles Darwin, avec des biologistes d'aujourd'hui, peut-être pas avec certains biologistes du XXe siècle, mais en tout cas, avec Charles Darwin, l'espèce est conçue comme une boîte parmi d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Comme on ne peut pas donner un prénom à chaque grenouille, on ne peut pas donner un prénom à chaque bactérie qui passe, on est obligé de faire des boîtes pour arriver à parler de la nature d'une manière générale. Et, Et l'espèce est la seule boîte pour laquelle ce sur quoi on s'entend pour les faire, ça va être la communauté de descendance cette fois-ci, non pas d'ascendance, mais la communauté de descendance. Les individus sont capables de faire des petits entre eux et faire la descendance fertile. Et non pas, disons, quelques attributs. Si je vous définis les primates par le pouce opposable, là je parle d'un caractère, je ne parle, pas de la descendance commune. Par contre, s'agissant de l'espèce, pour la reconnaître, eh bien, l'interfécondité va être l'un des critères.
Aujourd'hui, entre la zoologie, la paléontologie et la systémique, non ?
La systématique.
Systématique. C'est le même langage pour justement se tenir d'accord sur les critères, par exemple, de classification ?
Alors, sur la classification.
Par exemple ?
Allez-y.
Oui, sur la classification, absolument. Maintenant, pour définir une espèce, il est bien évident qu'on ne peut pas faire surproduire des fossiles ensemble pour voir s'ils ont des descendances fertiles. Ça va être un peu compliqué. Donc là, on va se baser uniquement sur des caractéristiques, notamment des caractéristiques morphologiques.
Mais qu'est-ce que la paléontologie ou l'étude des fossiles peut apporter à la théorie de l'évolution, par exemple ?
Eh bien, on peut, alors déjà au niveau de la classification, on va classer de la même manière qu'on le fait avec les animaux actuels, on va le faire avec les animaux fossiles, c'est-à-dire qu'on va voir comment ils se placent par rapport aux animaux fossiles, aux autres animaux fossiles, mais aussi par rapport aux animaux actuels, si c'est possible. Et donc au niveau de la théorie de l'évolution, on va avoir... Ça va permettre d'aborder des caractéristiques antérieures et de voir un petit peu comment ces caractéristiques apparaissent au cours du temps. C'est-à-dire quand on va trouver un fossile d'un âge donné avec une caractéristique précise, on saura que cette caractéristique, cette innovation est apparue au moins à cette date précise, enfin au moins à cette période-là, probablement antérieurement d'ailleurs, puisqu'on ne retrouve pas. On parlait tout à l'heure des ancêtres communs, on ne retrouve pas les ancêtres communs. C'est pour ça que souvent les journalistes font des raccourcis en disant on a retrouvé l'ancêtre de l'homme. Non, on ne retrouve pas d'ancêtre commun.
Alors, mais justement sur l'ancêtre commun, parce que ce buisson sphérique, bon, s'il est, disons, trois grandes familles, on disait bactéries, archées, je crois que c'est archées, hein, c'est ça, et eucaria. N'est-ce pas ? Bon, au final, il y a quand même il y a l'endroit où les trois espèces, enfin disons les trois familles, se rencontrent. Donc il y a quand même la question de l'origine de l'espèce commune qui est toujours là, tout de même, qui se pose. Cette question de l'origine, l'espèce de toutes les espèces. Je crois qu'à un moment donné, on l'a appelé sans doute Lucas comme l'ancêtre commun. Bon, peut-être qu'elle peut s'appeler autrement d'ailleurs, mais il y a quand même la quête de l'origine, quoi, disons d'une certaine manière.
Oui, vous pouvez le penser en termes de...
Est-ce que c'est une origine multiple ou une origine unique, justement ?
Ben, j'allais justement y venir, c'est que si on réfléchit à une forme qui peut être celle du centre de l'arbre buissonnant dont on parlait tout à l'heure, on a cette notion de Lucas qui est la reconstitution de la forme du dernier ancêtre commun, reconstituable par nous. Ça ne veut pas dire que c'est le premier, on n'en sait rien. Mais c'est le dernier en s'enfonçant dans le temps qu'on puisse reconstituer par les moyens dont on dispose aujourd'hui. Alors ça, ce n'est pas l'origine de la vie. Ça, c'est le point de jonction des trois branches de l'arbre tel qu'on peut se l'imaginer. Mais l'origine de la vie, c'est autre chose. L'origine de la vie, c'est l'origine d'une propriété. Alors l'origine, quelle est cette propriété qui définit la vie ? C'est cette possibilité qu'a une chose, j'avais envie de vous dire une structure, mais une structure chimique, allons-y. Il y a une structure chimique qui a comme capacité de varier. Elle est un peu complexe, donc elle peut varier. Et elle peut transmettre cette variation à un alter ego, c'est-à-dire à une structure voisine. Si vous avez possibilité de variation et possibilité de transmission de cette variation à un alter ego, vous avez le cocktail minimum pour faire ce qu'on appelle de la sélection naturelle. C'est-à-dire, en fait, l'environnement, dans les conditions dans lesquelles la chose est, va être, en quelque sorte, l'opérateur du tri sur la diversité des variants. Et ça y est, le niveau biologique démarre à partir d'un niveau chimique. Donc l'origine de la vie, c'est pas tant la recherche... On ne peut pas l'énoncer comme la recherche d'une première espèce. La notion d'espèce se perd à ce moment-là. Elle est évanescente. On cherche plutôt l'émergence d'une propriété, qui est celle de la variation sélection. Et ça, on peut le penser aujourd'hui comme un niveau accessible, j'en termine là, un niveau accessible déjà dès les premières protéines, en fait. Les protéines avec le prion, à la charnière du 20e, 21e siècle, on a appris que certaines protéines pouvaient être transférées à des alter ego leur conformation, et que ces conformations ainsi transférées pouvaient être sujettes à variation. Donc au niveau biochimique, on a les débuts de la vie, en fait.
Plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. Ce monde d'évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison. À la branche suspendue aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison. Féloche est un poilu qui jette son dévolu sur la femme à deux têtes. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain. Darwin avait raison. Darwin avait raison, j'ai quelque peu changé. Changé de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. Fait le chat, pris le zar. Darwin avait raison.
La grenouille s'est déportée au Muséum d'histoire naturelle de Marseille à l'occasion de l'inauguration de cette salle Terre de Vivants. Et donc nous avons installé un plateau avec très beau mobilier d'ailleurs du Muséum d'histoire naturelle. Et nous sommes donc en compagnie de Philippe Siot, Stéphane Joux, Guillaume Lecointre et Anne Médard-Blondel, directrice du musée, et nous parlons donc un peu de l'évolution de cette théorie Darwin, de la biodiversité aussi. D'ailleurs, on va en parler maintenant de la question de la biodiversité, puisque Guillaume Lecointre, tout à l'heure, vous parliez un peu de notion de sélection, on pourrait parler de notion d'adaptation, on pourrait parler aussi de notion de hasard, on pourrait parler aussi de liberté cellulaire. Parce que, en fait, quand j'ai commencé cette émission, je disais de 5 à 100 millions d'espèces, sans doute voilà vivante, mais en fait, sur le parcours des espèces mortes, il y a eu beaucoup. 10 milliards, je crois.
Oui, énormément. D'ailleurs, on n'est pas habitué, nous, humains, à raisonner avec la casse qui ne se voit pas. Les régularités qui se produisent à nos yeux ne se produisent que parce qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs derrière. Il y a eu beaucoup de casse, en fait. Mais comme on ne la voit pas, cette casse, on a l'impression que tout est fait merveilleusement pour convenir aux régularités du monde telles qu'on les perçoit. En réalité, il y a quelque chose entre 15 et 20% seulement des fécondations chez l'homme, chez les humains, qui mènent véritablement à un bébé qui va naître. Il y a énormément de fécondations auxquelles, d'ailleurs, ne suivent même pas de nidation. Ce que je suis en train de dire tout simplement, c'est que la régularité des formes dans les êtres vivants, c'est un immense parcours d'accidents. Et ça, on n'est pas habitué à le penser. Alors oui, c'est vrai, à la grande échelle, il n'y a pas que seulement pour l'embryologie, à grande échelle, à l'échelle de l'histoire, bah oui, les espèces qu'on voit ici, aujourd'hui, ici et maintenant, bah, c'est le résultat d'un vaste... d'un vaste cimetière. C'est peut-être pas très gai, mais y a beaucoup de joie aussi. On peut le voir comme ça.
Mais il y a même, parce que s'il y a 5 à 100 millions d'espèces, et qu'il donc, il en reste encore beaucoup, beaucoup à répertorier, hein, ça veut dire que sans doute, certaines mourront avant même qu'on puisse les trouver.
Bien sûr.
Donc il y a des espèces invisibles, des espèces d'ailleurs qui ne rentrent même pas dans le cimetière des espèces... qu'ils sont apparus, disparus, sont passés par la lumière des yeux de l'homme. Quoi.
Il disparaît beaucoup d'espèces actuellement, et il en est disparu énormément, auxquelles on n'a pas accès, auxquelles on n'aura jamais accès. Il faut savoir que la fossilisation, c'est vraiment un événement exceptionnel. Il faut des conditions strictes, assez drastiques. Et donc, la fossilisation, c'est un événement exceptionnel. Donc de la faune ou de la flore d'ailleurs qui a existé, on a un tout petit minuscule échantillon.
Mais si depuis tout temps les espèces disparaissent, bon, comment ça pose une question sur la question par exemple aujourd'hui de la biodiversité, hein, comment on peut évaluer quand on dit aujourd'hui les espèces sont en train, un certain nombre d'espèces sont en train de disparaître, de tirer le signal d'alarme sur cette disparition, mais en même temps cette disparition elle n'est rendue compte que parce qu'on peut justement les classifier ces espèces. Or il y a un certain nombre d'espèces qu'on ne classifie pas et ça se trouve elles sont elles aussi en train de disparaître ou pas du tout.
Tout à fait. Il y a plein d'espèces qui disparaissent sans même qu'on les ait décrites ou vues, ne serait-ce que vues. Il faut savoir qu'on décrit tous les ans de nouvelles espèces actuelles, de nombreuses nouvelles espèces, un peu partout dans le monde. Et malheureusement, alors parfois pour certaines espèces, c'est même problématique. Quand on décrit cette espèce, on a trouvé une nouvelle espèce de grenouille ou autre. C'est souvent, enfin parfois, quand on décrit une nouvelle espèce, ça la met en danger, puisqu'on on focalise, on met un peu la lumière sur cette espèce. Et je crois que c'est quelques espèces de grenouilles qui ont été décrites, et 2-3 ans après, elles étaient déjà en danger, parce qu'il y avait des captures pour mettre dans des vivariums ou autre.
Alors, je ne sais pas si c'est les zoologistes hein, qui nomment les espèces, mais je me dis que parfois, bon, disons, c'est un peu méchant. Par exemple, il y a une espèce de fourmi qui s'appelle la fourmi d'Argentine. Et je ne sais pas pourquoi on a décidé de dire que c'était une espèce envahissante. Alors, c'est vrai, elle semble beaucoup envahir, notamment aussi la région, je pense, et être méchante à l'égard des autres fourmis. Mais de là à l'appeler espèce envahissante, c'est quand même... Donc, ça existe, en fait, la notion d'espèce envahissante.
Oui, c'est une notion qui existe, effectivement. Bon, après, on peut...
Je précisais cela aussi sur cette question de la disparition d'espèces, parce qu'il y a plusieurs façons qu'une espèce disparaisse. Elle peut disparaître soit parce qu'effectivement, je ne sais pas moi, bon, pour des raisons du fait de l'homme, bon, sur la pollution, mais elle peut disparaître aussi du fait que bah, il y a une fourmi d'espèces, comme celle d'Argentine, et qui a des comportements ou des capacités autres oui. Qui fait qu'elle élimine, disons, d'une certaine manière, les autres fourmis.
D'autant plus qu'il y a de plus en plus d'interactions entre les espèces, dans la mesure où, en fait, le principal impact de l'activité humaine, c'est de détruire les habitats. Donc, modification des milieux, il y a des espèces qui vont chercher à conquérir d'autres milieux ou on crée des milieux qui vont être plus favorables à une espèce donnée. Et du coup, il y a des espèces qui vivaient de façon séparée qui vont se retrouver en concurrence. Et à partir de là, donc, il y aura forcément une espèce qui va prendre le pas sur l'autre. Et,
bien voilà. Proche du micro. Bien oui. Proche du micro.
Et dans ce cas-là, bon, c'est le cas pour cette fourmi-là qui a des taux de reproduction avec une organisation telle que les autres fourmis, effectivement, ont beaucoup de mal à lutter.
Mais dans ce cas-là, est-ce que, par exemple, le rôle, disons, des scientifiques est de protéger les autres espèces ou de laisser faire cette rencontre entre ces multiples espèces de fourmis ?
Alors, c'est un grand débat, en fait. L'homme a tendance à vouloir intervenir, effectivement, pour protéger certaines espèces. Bon, soit des espèces, bon, on le voit beaucoup au niveau des vertébrés avec la protection de certains mammifères. C'est beaucoup moins net au niveau des insectes, puisqu'on y attache moins d'importance. Mais l'homme a tendance à vouloir intervenir pour protéger des espèces qui lui paraissent intéressantes à des points de vue, bon, que ce soit esthétique ou utilitaire, peu importe, mais en tout cas il va avoir tendance à intervenir. Malheureusement, bon, le problème c'est qu'il ne pourra pas intervenir sur un grand nombre d'espèces, et actuellement il y a un mouvement qui a tendance à dire, bon, il faut laisser ce nouvel équilibre s'installer. Alors ça peut être dangereux, parce qu'effectivement il y a des espèces qui sont vraiment avec des taux de développement importants et qui pourraient effectivement éradiquer beaucoup d'autres espèces de la surface de la Terre. Mais voilà, il y a des équilibres à trouver, et c'est de la régulation de population, et l'homme essaie d'intervenir là-dessus, et c'est pas simple.
Stéphane, vous voulez réagir ?
D'autant que souvent le problème des espèces envahissantes, entre guillemets, c'est que ce sont souvent des espèces invasives introduites par l'homme dans des nouveaux milieux. Et c'est souvent à ce moment-là que ces espèces invasives deviennent envahissantes.
J'entends.
Elles arrivent dans des nouveaux milieux et donc...
Mais l'homme introduit les fourmis introduisent les bactéries, les bactéries introduisent les lapins. Enfin, je veux dire, le contact de l'homme et de son milieu a toujours existé.
Oui, sauf que là, ces phénomènes d'espèces invasives, entre guillemets, ça a déjà existé, hein, même au niveau de l'histoire géologique, mais c'était des phénomènes naturels. C'est-à-dire que quand vous avez des mammifères, quand vous avez au niveau d'Amérique centrale encore une séparation entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, vous avez des faunes distinctes entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Quand vous avez l'isthme de Panama qui se met en place, vous avez un passage des faunes entre les deux. Et là, on a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va avoir des espèces, on va avoir des échanges d'espèces avec des déstabilisations d'écosystèmes, avec des espèces qui vont disparaître, d'autres qui étaient en Amérique du Nord, qui vont passer en Amérique du Sud et qui vont se développer. Mais c'est un phénomène complètement naturel qui se met en place sur des temps géologique, c'est ça aussi. Là, on parle d'échelles de temps très très courtes, avec des espèces qu'on importe parfois sciemment, parfois involontairement. Alors que là, au niveau géologique, effectivement, ça a toujours existé, ces passages, ces échanges fauniques, sauf que ça se fait sur des échelles géologiques. Et là, c'est de l'ordre de centaines de milliers d'années, voire plus.
Et on a un autre phénomène à l'heure actuelle, c'est une homogénéisation des milieux. Ce qui fait qu'en fait, les espèces les moins spécialisées ont tendance à prendre le pas sur des espèces plus adaptées, disons, plus spécialisées à leur milieu. Et ce phénomène-là fait qu'on a une perte d'une biodiversité intéressante, puisque qu'elles nous racontent une histoire, puisqu'elles étaient adaptées à un milieu qui était là depuis pas mal de temps. Là, on a une accélération de ce phénomène lié justement à ce problème d'homogénéité des milieux. Et on le voit bien en milieu urbain, où en fait, on a dans toutes les villes du monde, des espèces qui s'installent. C'est toujours les mêmes genres d'animaux qui s'installent et qui, finalement, vont prendre le pas sur le reste.
Mais sur cet exemple de la fourmi d'Argentine, on ne peut pas parler, par exemple, de sélection naturelle, la question de la sélection naturelle, l'évolution des espèces. Là, quelque chose échappe à la théorie Darwin, ou est-ce qu'on peut dire, mais voilà, finalement, c'est le principe de la sélection, naturelle. Guillaume Lecoin.
Ce sont les mêmes principes, comme on l'a évoqué là, ce n'est qu'une histoire d'accélération, mais sinon les phénomènes sont les mêmes, ils sont juste accélérés, c'est-à-dire que les milieux vont être de plus en plus, en quelque sorte, les lieux de passage de toute une série d'organismes venus d'ailleurs, si je peux le dire comme ça, et les phénomènes sélectifs vont évidemment se mettre en place, même si l'homme met son nez dedans d'ailleurs, parce que l'homme n'est pas, comment dire, en dehors de tout ça. D'abord, les espèces dont on parle, elles ont souvent été amenées par l'homme, mais lui-même est un pion dans ce vaste échiquier, et donc penser les espèces invasives, c'est penser le rôle de l'homme en tant qu'élément du puzzle écologique. Tant qu'on ne le fera pas, on n'arrivera pas à penser la protection de l'environnement. Il faut penser la protection de l'environnement, homme inclus. Vous voyez, on ne peut pas mettre d'un côté l'homme et de l'autre côté l'environnement. Ça ne marchera pas, on le sait déjà. Hein.
Je parlais aussi de liberté cellulaire versus programme. Bon, c'était un peu la question de... On n'a pas parlé de ça, mais on peut, peut-être un petit mot hein, sur la révolution qui a été aussi... Bon, on dit code génétique ou génome, je ne sais pas très bien, mais la révolution qui a été là, cette découverte, dans cette question de l'évolution finalement des espèces, le rôle de cette découverte, est-ce que ça a donné un certain déterminisme, un certain logique programmatique, ou est-ce que il y a des formes quand même de liberté cellulaire, comment...
Oui, ben là vous mettez le doigt sur toute la question. On avait commencé par ça, en parlant de qu'est-ce qui est régulier et qu'est-ce qui ne l'est pas. La notion de gène nous vient de 1909, et entre 1909 et 1953, on a eu une notion de gène assez prudente. Les gènes étaient en quelque sorte des impulsions. Tout ce qui émanait de l'action d'un gène n'était pas écrit in extenso dans un programme à l'époque. En 1944, un physicien, non pas un biologiste, mais un physicien, Erwin Schrödinger, écrit un livre qui s'appelle « What is life ?». Et voilà un physicien qui se met à penser la biologie dans son livre comme un physicien. C'est-à-dire que la statistique faite de milliards de comportements à petite échelle, la pensée statistique, hein, est-ce que des milliards de petits comportements individuels à petite échelle, il peut en résulter une régularité à grande échelle ? Est-ce qu'un petit désordre fondamental, on peut en faire émerger à plus grande échelle un ordre apparent ? Eh bien, pour un physicien comme Schrödinger, pas vraiment. Pour Schrödinger, l'ordre qui fait que les bébés chats ressemblent à leur maman chat et que les bébés chiens ressemblent à leur maman chat, à leur maman chien, vous avez compris, cet ordre apparent ne peut provenir que d'un ordre microscopique. L'ordre macroscopique vient pour Schrödinger d'un ordre microscopique. Et peu de temps après, on découvre l'ADN en 1953. Et pendant 50 ans, la biologie se rue vers ce qu'on appelle une pensée de la préformation, c'est-à-dire où tout ce qui est reproductible et ordonné à grande échelle, il faut que ce soit reproductible et ordonné à petite échelle. Ajoutez à ça la cybernétique, la métaphore du programme, l'entrée des ordinateurs dans les laboratoires, les transferts de métaphores entre disciplines, et vous avez la métaphore du programme génétique. Et pendant 50 ans, on s'est mis à penser que si les bébés ressemblent à leur maman ou à leur papa, bah c'est parce qu'il y a un programme et que tout est écrit. Alors ça a été l'apogée de la métaphore du programme, on l'a eu dans les années 60 et 70. Et donc on est dans une biologie qui n'est pas compatible avec la biologie darwinienne. Si vous avez compris ce qu'on a dit tout à l'heure, pour Darwin, on a un désordre fondamental, et il faut comprendre comment à partir d'un bazar fondamental, on a, je le fais très vite, hein, des régularités à grande échelle. C'est, tout à coup, ce programme génétique va arriver un peu comme une épine dans le pied, c'est-à-dire qu'on va revenir à une pensée de l'inné presque. Ou avec le programme, ce qui est donné à observer, c'est l'ordre, et le rôle de la théorie de l'évolution, c'est expliquer le changement. Dans les années 60. Aujourd'hui, à l'orée du XXIe siècle, on est déjà bien rentré dedans d'ailleurs, eh bien, on s'est débarrassé un peu de ce programme génétique. Du coup, on revient darwinien comme on n'aurait jamais dû cesser de l'être, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de programme, il y a bien des impulsions. Ces impulsions, leurs manifestations dépendent des conditions de l'environnement dans lequel vous êtes. Et finalement, il n'y a peut-être le génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes d'un individu, n'est pas le notaire de ce qui va être légué à la génération suivante. Il va juste être en quelque sorte un partenaire dans la réalisation de ce qui va se manifester à la génération suivante. Un partenaire parce que le milieu va contribuer, enfin va laisser son empreinte en quelque sorte dans la façon dont son génome va être exprimé entre guillemets. Et puis on n'envoie pas à la génération suivante tous ces gènes, rappelez-vous, hein, vos leçons de lycée sur la méiose, on n'envoie pas tous ces gènes à la génération suivante, et surtout on envoie la cassette à la génération suivante avec un certain état de lecture, c'est-à-dire qu'il y a de l'épigénétique par-dessus le génétique, et avec l'environnement ça nous fait trois hélices. Je fais allusion ici au livre de la triple hélice, Richard Lewontin, voilà, son nom a failli m'échapper. Aujourd'hui, on est sur des modalités de transmission biologique qui sont beaucoup plus complexes et plus complètes, en fait, et laissant sa place à la variation, beaucoup plus qu'on ne l'a été dans la métaphore des années 60.
Sachant qu'il y a la variation et puis il y a le milieu. Et que le milieu joue...
Le milieu joue dans la réalisation en trois dimensions d'un organisme, alors que le génome était pensé jadis seulement en deux dimensions. Une dimension.
Très bien les enfants, maintenant mon boulot est de vous enseigner la théorie de l'évolution.
Oh mon Dieu!
Je suis de celles qui pensent que cette théorie est un ramassis de conneries. Mais je dois vous en parler malgré tout. Elle fut élaborée par Charles Darwin et ça donne à peu près ceci. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a... enculer un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille-écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe-poisson-grenouille. Et ce singe-poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson-écureuil. Mes félicitations.
Ah, il faut que ça s'arrête. J'en peux plus.
Oui, difficile d'accepter la théorie de Darwin dans ces conditions, effectivement. Oui, alors c'était aussi pour, puisque vous disiez, Guillaume Lecointre, on a été darwinien, puis après on a cessé de l'être, et puis après on est revenu. Aujourd'hui, on l'est, je pense, mais il y a toujours des résistances. Et qu'il y a toujours la possibilité de remettre en cause un peu cette théorie. Alors, peut-être une dernière question, selon vous, un peu pourquoi ces résistances à cette théorie de l'évolution.
Je précise pour nos auditeurs que c'est la théorie générale de la biologie, de l'anthropologie et de la paléontologie. Le fait que ce soit une théorie, toutes les sciences ont besoin de théories. Il y a des théories en physique, en chimie, en géologie, je ne fais pas le détail. La théorie de l'évolution est la théorie générale de la biologie. Le fait qu'elle soit une théorie est en même temps une théorie nourrie de faits. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il y a effectivement une co-substantialité entre les théories et les faits en science. Il n'y a pas de fait sans théorie, il n'y a pas de théorie sans fait. Donc on est là-dessus sur une cohérence dans le monde des sciences. En fait, si vous regardez un petit peu le paysage des sciences académiques dans le monde entier, personne ne conteste. Une théorie s'améliore en elle-même, elle se construit sur elle-même. Il y a évidemment des débats en interne, il y a des controverses, mais dans un cadre théorique général qui est assumé. Par contre, ce à quoi vous faites allusion, je fais bien la distinction entre les controverses internes et les polémiques externes, d'origine externe. Et j'insiste sur cette différence parce qu'il y a de grandes confusions. En général, on appelle controverses scientifiques des objections qui n'ont rien à voir avec les sciences. Rappelons-nous seulement que pour les scientifiques, il y a des règles de recevabilité de l'objection. Quand on objecte quelque chose, il faut que cette objection soit animée d'un certain état d'esprit. Il faut qu'elle soit d'abord fondée sur des faits, ces objections. Il faut que ces objections ne cachent pas d'agenda caché, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles affirment dans quelle théorie elles se situent. Et puis, il faut que l'interlocuteur joue le jeu de l'argumentation avec le respect des faits. Il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter, parce que justement, les règles de recevabilité de l'objection ne sont pas les règles qui sont ceux des scientifiques, mais c'est des règles qui viennent d'ailleurs. Et vous imaginez à quel point les humains sont imaginatifs. Il y a plein de façons de fabriquer des discours sur le monde. Et d'ailleurs, dans leurs registres respectifs, ils sont tous légitimes à mes yeux. Le problème survient lorsque vous avez un discours politique ou un discours théologique. Enfin, c'est ces types de discours qui incorporent dans leur construction des principes d'autorité. C'est vrai parce que mon chef l'a dit. C'est vrai parce que c'est écrit dans tel livre. Ça, en science, ça ne marche pas. Ça fait partie des entorses aux règles de la recevabilité de l'objection. Si vous dites « c'est vrai parce que ma grand-mère l'a dit », en science, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai ou c'est faux par rapport à un certain nombre de règles du jeu. Je vais pas vous les donner là parce qu'on n'a pas fini sinon. Mais ce que je veux simplement vous faire comprendre, c'est qu'il y a des recevabilités d'objection. Alors, les scientifiques discutent de l'évolution entre eux, mais ils auront du mal à discuter sur les remises en cause de l'évolution lorsqu'elles viennent de partis politiques conservateurs, par exemple.
Mais est-ce qu'au fond, le grand scandale, ce n'est pas d'ailleurs, je crois que vous le dites vous-même, est-ce qu'au fond, le grand scandale avec la théorie d'évolution, c'est qu'elle propose une origine naturel, sans référence métaphysique, oui. C'est-à-dire sans transcendance, sans spiritualité, c'est-à-dire une origine naturelle, scientifique.
Oui, c'est ça. Bah, vous avez mis le doigt dessus. Hein. Pourquoi est-ce qu'on reçoit ces objections, en fait, de l'extérieur ? Parce que les gens n'ont pas compris le rôle des sciences, en général. Le rôle des sciences, c'est d'expliquer la nature avec les seules ressources de la nature. Mais ça, c'est vrai pour les chimistes aussi. On n'emmerde jamais les chimistes. C'est vrai pour les astrophysiciens. On n'embête pas beaucoup les astrophysiciens. C'est vrai pour... Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, mais expliquer la nature avec les seules ressources de la nature, c'est-à-dire ne pas s'autoriser au laboratoire. Chez soi, on fait ce qu'on veut, mais au laboratoire, ne pas s'autoriser à expliquer le monde naturel avec des entités dont vous savez qu'elles sont extra-naturelles ou surnaturelles, ça, c'est un contrat de travail, en fait. C'est un contrat de travail qui a été remis en place au XVIIIe siècle. Hein, donc c'est pas très vieux, ça fait 250 ans que les sciences se sont émancipées du discours métaphysique, le discours qui est au-delà du monde physique. Elles s'en sont émancipées, mais c'est pas pour autant qu'elles cherchent à mettre les pieds dedans. Les scientifiques n'ont pas aujourd'hui, que je sache, professionnalisés comme ils sont, ils ne s'engagent pas dans ce métier pour partir en guerre contre une métaphysique particulière ou pour au contraire soutenir une autre. Il y a une neutralité métaphysique dans l'espace collectif des laboratoires. Ça explique pourquoi l'évolution, comme vous l'avez dit, est une explication naturelle de nos origines. Mais elle est naturelle par contrat de travail. Si vous voulez mobiliser la religion pour penser votre origine, vous pouvez le faire chez vous. Mais là, pour le coup, ce n'est pas l'espace du laboratoire. Ça n'est plus un espace collectif.
Merci Guillaume Lecointre. Merci Stéphane Jouve et Philippe Sio. Anne Médard-Blondel, nous arrivons au terme de cette émission. Et finalement, un musée comme celui-ci, ce muséum d'histoire naturelle, est-ce qu'il n'a pas aussi cette mission sans doute première de présenter l'avancée des recherches en sciences naturelles et de présenter les controverses internes à cette recherche et peut-être aussi de prendre en charge aussi un peu les questions qui peuvent surgir de questionnements qui viennent en dehors de la recherche dans la médiation avec le public.
C'est pour ça que vous êtes là, je crois. D'ailleurs, c'est le rôle du musée, ça a toujours été le rôle du musée depuis sa création. La difficulté, comme vous pouvez l'entendre, c'est de ne pas prendre parti, d'exposer des faits et de proposer, à l'occasion d'émissions comme celle-ci, des rencontres pour discuter du débat, de ce qui est en débat et de ce qui est en discussion. Mais c'est vrai que vous l'avez entendu, la grosse difficulté pour nous, toujours dans nos expositions, c'est de savoir quoi montrer. D'abord, notre espace est restreint, nos capacités de monstration sont limitées, et donc la grande difficulté est toujours de choisir dans le débat ou dans le fait lequel va-t-on montrer, et de rester le plus neutre possible sur le sujet, tout en affirmant une réalité scientifique qui est notre cœur de métier.
Eh bien, en ce moment, la Terre du vivant, donc prochainement, vous pourrez voir au moins, comme je le disais, deux axes, mais vous m'avez dit qu'il y en avait plus, je vais vous laisser les citer. Sur cette question de l'évolution.
On commence par remonter le temps, pour après s'interroger sur la respiration, la communication, la reproduction, l'alimentation, l'évolution, la locomotion, et il y a encore un autre, mais j'avoue que là, vous m'avez... je ne sais plus lequel.
Toutes les infos sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille, et puis pour réécouter cette émission en podcast sur le site de radiogrenouille.com où vous pourrez aussi trouver d'autres émissions. Merci à vous.
Merci.
Et à très bientôt.
Merci. Oui. 380 millions d'années, c'est le temps de divergence entre nous et la grenouille. Pour vos auditeurs.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. RadioGrenouille.com